Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Air Diwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Hélène Legardeur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur et notamment cette guerre qui se déroule en ce moment à la République démocratique du Congo et notamment dans le territoire de Goma. Et donc vous avez une relation au sein de cette contrée et vous êtes donc tenu au courant de ce qui s'y passe quasi au quotidien, on peut dire. Et vous êtes ici aussi pour mettre un point de correction sur ce que les médias tentent de nous faire croire sur la situation actuelle. Alors, on peut peut-être rappeler ce qui se passe à Goma, précisément. Et est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter un peu cette situation qui a débuté, voilà, plus d'un an?
Alors merci de me permettre de parler de la République démocratique du Congo, qui est un territoire immense et un des plus gros pays francophones au monde, il faut le savoir, même s'il y a aussi une autre langue qui est le swahili, et tout le monde parle français sinon. Voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, dans le territoire du Kivu, qui est complètement à l'est de ce pays, dans la région des Grands Lacs. C'est juste l'horreur. En fait, l'horreur, les viols de guerre que beaucoup connaissent avec ce film et ce livre sur les médecins qui réparaient les femmes, des incendies, des villages et tout ça. Alors pourquoi ? Ben parce que le Kivu, son malheur, c'est d'avoir le sous-sol le plus riche du monde. Il a 80% des richesses de coltan, par exemple, qui est un minerai dont nous avons besoin dans nos smartphones et dans nos batteries électriques. Donc voilà, alors je pense que certains ont dû voir à une époque le film de Leonardo DiCaprio qui s'appelle Blood Diamond. Donc c'est exactement à cet endroit-là, sauf qu'il ne s'agit plus des diamants parce qu'ils n'ont pas que du coltan, ils ont un sous-sol hyper riche. Et à cause de ça, évidemment, tous les pays du monde veulent se l'accaparer. Donc aujourd'hui, c'est terrifiant à Goma. Donc moi, j'ai une amie à Goma depuis 1983. Je l'avais rencontrée en allant là-bas sur un projet de développement. Voilà. Et là, elle vient de réussir à fuir, mais elle a passé des jours enfermée, entourée de matelas, loin des vitres. Enfin, vous pouvez imaginer. Ce matin, l'article du Monde dit aussi les horreurs des violences faites aux enfants dans les camps de déplacés. Voilà, mais tout ça a commencé il y a un an.
Que s'est-il passé il y a un an ? Il y a déjà cette intrusion donc de l'armée rwandaise sur ce territoire de Goma.
Alors voilà, j'ai été alertée en janvier l'année dernière parce que l'Union européenne a décidé de signer un protocole d'accord qui a été signé le 19 février 2024, un protocole d'accord avec le Rwanda. Pourquoi le Rwanda ? Pour demander au Rwanda de nous acheminer des minerais traçables, propres et tout ça. Voilà, puisque les Occidentaux commencent à trouver compliqué d'avoir des téléphones issus du travail d'enfants dans les mines. Et voilà. Et du coup, et de toutes ces horreurs qu'il y a là-bas. Et du coup, l'Union européenne a signé avec le Rwanda un protocole d'accord. Et ce protocole demandait au Rwanda de faire venir des minerais. Donc, chercher l'erreur, à partir du moment où le Rwanda n'en a quasi pas, évidemment, ils ont commencé à envahir, donc il y a maintenant un an, quasi exactement, ils ont envahi la région du Kivu, poussé, incendié, violé et arrivé. Ça a commencé il y a un an. Donc, c'est le M23 qui est un mouvement de rebelles. Mais l'ONU, les rapports de l'ONU et la radio de l'ONU, disait déjà à l'époque, donc j'ai les émissions de radio et mails à l'appui, disait déjà que le M23 était soutenu par l'armée officielle rwandaise. Voilà.
Alors, juste une question. Étant un pays francophone, est-ce qu'on peut déduire aussi l'intérêt de ces exploitations et pour le compte de quel pays ?
Alors oui, c'est ça qui est très curieux. Moi, ce qui m'étonnait, c'est pourquoi ne pas signer avec la RDC ? Mais la RDC est un pays corrompu, très très compliqué, il est immense et très compliqué à gérer. La Chine a évidemment signé depuis longtemps avec la République démocratique du Congo pour arriver à extraire des minerais de manière légale. Mais il n'a pas été possible de signer avec la RDC. Du coup, le Rwanda passant actuellement pour un pays sage et propre, on va dire, puisque même l'Union... même le Royaume-Uni voulait y envoyer des migrants, mais ça a été contrecarré. Le Rwanda paraissait le partenaire idéal pour faire venir des minerais. Mais ces minerais viennent du Congo. Voilà, donc oui, nous avons beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que nous avons à faire de cette guerre. En fait, à chaque fois que j'envoie un texto, j'ai à faire de cette guerre. Et j'ai voté pour des gens à l'Union européenne et ces gens-là sont... ont signé un protocole d'accord. Donc oui, nous sommes directement concernés.
Alors, cette armée M23, on peut peut-être... Oui, c'est ça, le mouvement du 23 mars, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle le 23. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est cette date du 23 mars, vous le connaissez ?
Alors non, je ne pourrais pas...
D'accord. Non. Et donc, il y a ce soutien opéré par l'armée rwandaise aussi. Comment fonctionne-t-elle ? De quoi vit le Rwanda de nos jours économiquement ? Est-ce qu'il y a un support, un apport international aussi pour son redressement, puisqu'il y a eu dans les années 90 ces massacres de population. La France n'était pas d'ailleurs exempte de responsabilité dans ce sujet. Est-ce qu'il y a une continuité justement de cette présence française au sein du Rwanda et qui permette justement cette mise en place de cette exploitation et appropriation de minerais ?
Alors c'est très compliqué la situation parce qu'il y a beaucoup de groupements armés rebelles issus éventuellement de Hutu, Tutsi de l'époque du génocide qui passent d'un pays à l'autre puisque le Rwanda et le Congo se touchent, hein, comme pour ceux qui connaissent la Grande Barrière, c'est comme le pont entre Granges-les-Valence et Valence, hein, c'est vraiment voilà. Et du coup ces rebelles ils viennent d'un petit peu partout. N'empêche qu'ils ont des armes, qu'ils ont des munitions. Donc tout ça, forcément, c'est des finances qui viennent de quelque part. La plupart du temps, de l'exploitation illégale des mines, hein, puisque le coltan se vend extrêmement cher. Voilà. Et l'armée rwandaise, comme Kagame, malgré tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, n'est pas blanc du tout comme neige, mais on peut dire qu'il a redressé son pays depuis le génocide et qu'en fait, les pays européens, entre autres, et occidentaux sont très, très intéressés par signer des accords avec le Rwanda. Par exemple, un énorme laboratoire pharmaceutique que l'Union européenne a signé, par exemple, à Kigali, la capitale.
Alors, si je comprends bien, depuis fin janvier, l'armée rwandaise serait présente sur ces territoires de Goma comme des libérateurs en quelque sorte, mais face à ces rebelles.
Ah, pas du tout, du tout, du tout, du tout. L'armée rwandaise soutient les rebelles, oui. Mais... incendie, viol et arrive à Goma. Donc en fait, c'est ça le plus grave. Jusqu'à maintenant, il y avait le M23. Mais là, ce que dénonce la France, entre autres, et d'autres pays, sans bien sûr nommer le protocole, mais les autres pays occidentaux disent c'est comme la Russie avec l'Ukraine. Non, le Rwanda doit se retirer de la RDC. Donc pour l'instant, c'est vraiment une conquête de territoire. Donc l'armée rwandaise officielle est arrivée à Goma pour conquérir le territoire du Kivu. Donc tous les pays occidentaux demandent, et l'ONU, qu'ils se retirent de la RDC. Après, les M23, c'est encore autre chose. C'est des gens... Il y a beaucoup d'adultes issus des enfants soldats de l'époque post-génocide et puis après. En fait, ça fait 30 ans qu'il y a la guerre là-bas. Alors, des fois, il y a des accès comme maintenant, mais il y a toujours eu la guerre à cause de ces richesses du sous-sol. Et les enfants soldats, c'est des enfants qui ont été pris très petits. J'ai oublié d'ailleurs une magnifique bande dessinée qui est en vente à la librairie Mosaïque. Ça s'appelle « Au bout du ciel » ou « Le ciel » qui explique magnifiquement les mines au Kivu. Voilà. Et donc, les enfants soldats devenus adultes n'ont aucune norme. En fait, aucune morale, aucune norme, puisque pour les enrôler, on leur demande à 8-9 ans de tuer des membres de leur famille et tout ça. Donc, les rebelles du M23 sont un peu comme ça. Et là, ils sont soutenus par l'armée officielle rwandaise. C'est ce que dénonce l'ONU.
Quels sont les commanditaires de ces exploitations? Il y a forcément une demande économique, commerciale à ce sujet. Est-ce qu'on a quelques traces de ces contrats, peut-être, opérés entre certains États ou entreprises et donc ces zones en guerre?
Oui, alors la Chine avait signé il y a quelques années des contrats avec la RDC pour exploiter les mines. Ça, de manière légale, on va dire. Ils devaient reverser beaucoup de royalties à la RDC. C'est pas toujours le cas, mais bon. Et puis, il y a beaucoup d'illégalités. J'ai lu hier dans Le Monde qu'il y avait un procès contre Apple pour dire que Apple devrait avoir la traçabilité du minerai. Notre minerai, nous en avons besoin pour nos smartphones, nos batteries électriques, etc. Nous sommes surconsommateurs, nous ne sommes pas du tout dans la sobriété énergétique par rapport à ça. Mais on pourrait imaginer que le commerce soit équitable, comme ça a été le cas à l'époque pour le diamant, ensuite grâce aux Pays-Bas. On pourrait imaginer que le minerai, ben oui, on le paye plus cher, qu'il n'y a pas d'enfants au travail, qu'il n'y a pas d'esclavage et qu'on signe des contrats corrects. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas, puisque le protocole d'accord est dénoncé fortement.
Pour ne rien arranger, il y a aussi Donald Trump qui a des vues sur cette situation. Est-ce qu'on peut peut-être définir lesquelles?
Alors, Donald Trump a des vues sur tout en ce moment. Donc, dès qu'il y a un conflit quelque part, donc il dit qu'il va régler le problème de l'Ukraine, qu'il veut mettre les Gazaouis dehors de Palestine. Donc, évidemment, là où il y a des mines, ça l'intéresse. Mais le sous-sol américain est beaucoup plus autonome au niveau... Enfin, pas autonome, mais en tout cas au niveau du minerai, est moins dépendant que nous le sommes. Nous avons une mine... de lithium qui est en train éventuellement de se faire dans l'Allier. Et toutes les discussions des citoyens qui ne veulent pas de cette mine, tout le monde commence à comprendre que, bah oui, si on n'ouvre pas de mine de lithium en Allier, dans l'Allier, oui, on est dépendant de l'extérieur. Donc c'est toujours très compliqué. On ne veut pas que ça se passe chez nous. Mais en fait, nous faisons comme l'esclavage à l'avant-siècle dernier, c'est-à-dire nous avons en esclavage des enfants et des gens qui nous fournissent le coltan, entre autres, il n'y a pas que ce minerai-là, nécessaire à nos téléphones portables.
Pour connaître précisément l'information et l'actualité sur ce territoire de Goma, quelles sont les sources sûres?
Alors, en tout cas, presque tous les jours, il y a un article du Monde. Voilà, qui a mis très longtemps à parler du protocole d'accord, mais quand même. En tout cas, c'est un de ceux qui ne disent pas c'est des guerres ethniques. Il y a eu une très bonne émission sur 28 minutes sur la 5. Il y a bien sûr TV5. Quand on tape TV5, on a toujours des nouvelles de Goma. Après, il y a la radio de l'ONU qui s'appelle Okapi, je crois. Mais peut-être vous savez ça mieux que moi. Voilà, alors moi j'ai des liaisons en direct avec Goma. Il y a aussi une association à Lyon qui s'appelle Génération Lumière, avec des Congolais, sur lequel on peut avoir aussi des informations. Voilà, mais je dirais que l'ONU a rendu des rapports, qu'on a quand même, oui, il y a le journal Le Monde. Alors après, on peut regarder les autres journaux. Voilà.
Vous aviez ce désir aussi de vous exprimer sur ce sujet, parce que vous y trouviez des contre-vérités, notamment dans la presse en France. Et pour vous, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça signifie à vos yeux, cette manière de montrer une réalité différente?
Bah, par exemple, en fait, ce qui m'a fait venir ici, c'est que, comme je suis abonnée au Monde, vous savez, on peut contribuer. Et dans les contributions, je lisais les contributions des articles et des gens qui sont lecteurs assidus du Monde, voilà, disaient genre, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec ce pays si lointain? Pourquoi on s'en occupe? Qu'est-ce que la France a encore à y faire? Donc, je voulais au moins qu'on sache que, voilà, c'est une ancienne colonie belge, mais qu'on y parle français. Je voulais aussi dire que c'est notre demande numérique de batteries et de minerais, ça va être le sujet LE majuscule, ça va être le sujet des années à venir. Voilà, toutes les grosses entreprises se réunissent pour parler des minerais. Alors, ils disent plus minerais rares, ils disent minerais critiques. Donc, vous pouvez aussi taper minerais critiques. Hein. Il y a un certain nombre de données. Donc, ça va être le souci. Donc voilà, après je dirais que faire, on finira par ça tout à l'heure.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5,
101.7,
FM.
Je reviens un peu sur cet aspect donc, de minerai. Il y a une petite phrase qui m'a interpellé là, juste dans votre dernier propos. Il y a ce grand programme voulu par Emmanuel Macron avec son 9 milliards d'investissements de l'étranger pour créer des data centers. Je crois que ce serait au nombre de 35 hein, en France. Il y en aurait un d'ailleurs pas très loin entre Romans et Valence, je crois, en projet. Cela nécessite certainement des minerais rares ou critiques. Donc, c'est une fuite en avant. Et forcément, quels sont les recours pour ce petit pays Goma par rapport à cette situation? Je pense que... Est-ce qu'il y a un mouvement ou alors est-ce que c'est mis en place aussi des prises de position pour contrer cette invasion?
Alors, c'est sûr que, par exemple, il y a eu une chose très intéressante au grand sommet de l'IA voulu par Macron. Il y avait un contre-sommet. Et heureusement, parce que ça fait quand même poser des questions. Quand on lit un certain nombre de journaux, il n'y a pas que Le Monde, il y en a plein d'autres. Quand on lit les journaux, on voit bien que l'intelligence artificielle, il faut comme à chaque fois arrêter la fuite en avant. Alors, je ne dis pas arrêter l'intelligence artificielle ni la recherche, je ne dis pas ça du tout. Mais c'est comme le téléphone, comme tout. Et nous devons avoir un souci de sobriété. Et les data centers, va y avoir des écrits, des écologistes en premier, évidemment, mais pas seulement, des mouvements, des associations, sur le fait que c'est très aussi demandeur d'eau. Il faut de l'eau pour refroidir les data centers. Il faut de la clim pour refroidir les data centers. Donc, à chaque fois que nous faisons répondre à tous, par exemple sur un mail, que nous n'effaçons pas tout ce qui a écrit derrière, par exemple, à chaque fois qu'on fait ça, voilà, c'est tant de CO2, tant de clim, tant d'eau, voilà. Donc, je pense qu'il faudrait accompagner tout ça de ce qu'on appelle la sobriété. La sobriété, c'est un, récupérer des portables reconditionnés pour récupérer les minerais. Et pas forcément foncer sur le dernier iPhone qui coûte les yeux de la tête. Fermez la parenthèse, mais il y a plein d'autres choses. Je pense qu'il y a ça. Je pense que quand on répond à des mails, à WhatsApp, à autre chose, il faut être sobre. C'est-à-dire, on ne fait pas répondre à tous. On ne laisse pas 10 000 pages derrière parce que chaque mot qu'on envoie est une charge en CO2 et une charge en data center et une charge en eau. En fond, oui, c'est la fuite en avant, l'IA. Pourquoi pas si, comme disait... qui c'est qui disait ça au XVIe siècle, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça va me revenir. Voilà. Un auditeur va sûrement y penser tout de suite. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours poser les problèmes éthiques. Et je pense que nous avons... à nous poser la question de la sobriété numérique. Ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter la recherche, le progrès, et ce n'est pas pour ça que l'IA peut être utilisable. Mais cette fuite en avant de Macron, qu'il a fait aussi sur l'agriculture, en disant, oui, on peut régler l'agriculture avec le numérique, en disant au mètre carré combien on met de produits, avec des drones qui surveillent et tout ça, je pense que non. En tout cas... moi, ce n'est pas la vision du monde d'après que j'espère.
Une nouvelle catastrophe à venir, donc. Il y a aussi un événement qui s'est produit il y a 3 semaines, c'est DeepSeek, cette intelligence artificielle chinoise qui demande quasiment 5 fois moins de consommation en toutes sortes. Est-ce que ça révèle aussi ce problème de l'intelligence artificielle en Occident qui ne compte pas hein, pour créer, comme dirait Macron, Macron, c'était quoi quoi qu'il en coûte.
Quoi qu'il en coûte.
Et donc, est-ce qu'il y a cette idée aussi de peut-être de ramener à la raison toutes ces entreprises et ces décideurs sur une manière peut-être beaucoup plus,
sobre,
morale, mythique. Morale, peut-être, de cette gestion de l'intelligence artificielle.
Alors, je pense que c'est pour tout. Peut-être que tous ces morts à Goma, peut-être que ces images terrifiantes. D'ailleurs, il y avait aussi complément d'enquête d'Élise Lucet qui avait été filmé là-bas, les enfants dans les mines. Je pense que petit à petit, l'opinion quand même se rend compte. Et d'un autre côté, les entreprises vont se heurter à l'accès aux minerais rares. Donc à un moment donné, l'opinion publique ne va plus vouloir d'avoir des smartphones du sang. Donc je pense que ça, c'est des mouvements qu'il faut tenir absolument de contre-pouvoir. Après, sur l'intelligence artificielle, bon, c'est pas mon sujet directement parce que je ne connais pas bien ce sujet, mais tout ce qui va être demandeur d'eau et demandeur de minerais doit poser la question de comment on fait pour ne pas impacter les générations futures. Voilà.
Il y a cette réaction possible par rapport à ces problèmes, et pas forcément que pour le Congo, mais sur d'autres pays également, j'imagine. Quels sont les mouvements qui peuvent peut-être aussi amener les Français à prendre conscience et à être informés au mieux de ce qui est de ce qui se produit actuellement?
Alors, je pense que voilà, l'année dernière, à Valence, j'avais fait venir une pièce de théâtre qui s'appelle « Requiem pour un smartphone », qui a été jouée des centaines de fois, qui est assez exceptionnelle au niveau de l'écriture et au niveau du jeu d'acteur. Voilà. Et donc, cette pièce avait fait l'objet d'un débat, donc à l'époque du protocole, il y a un an. Donc, nous avons décidé avec plusieurs associations de faire venir cette pièce à Die le 7 novembre prochain pour essayer de parler de l'extractivisme, qui est le nom qu'on donne aux minerais qu'on va chercher dans les mines, cette relation avec l'utilisation de nos smartphones. Je pense que ce sujet des mines, non seulement c'est le sujet d'avenir, mais je pense qu'il touche le sujet de notre sobriété énergétique, de comment on utilise le numérique pour ne pas se laisser envahir par tout ça, être sobre. Ça touche la situation des réfugiés, puisqu'il y a beaucoup de réfugiés congolaises qui sont par exemple à Valence victimes de violences de guerre. Et ça touche le problème du commerce équitable. Nous pourrions payer correctement des minerais propres. Donc nous nous regroupons à 4 associations pour faire ce festival de solidarité internationale en novembre, le week-end du 11 novembre, à 10 sur l'extractivisme. Ça, c'est le premier axe. Maintenant, comment chacun peut faire? Chacun peut d'abord ne prendre que des téléphones reconditionnés. Voilà, comme ça, les minerais sont remis dans le téléphone. Être sobre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur quand on répond à tous, quand on répond pour rien, quand on envoie des tas de choses qui ne servent à rien. Voilà, pour être sobre, après, pour les data centers, pour les minerais, pour l'eau, que tout ça demande à refroidir. Voilà, et la dernière chose, c'est qu'avec Justine, donc mon amie à Goma, auquel je pense tous les jours, puisque j'ai des nouvelles tous les jours, sauf quand tout s'est arrêté au niveau des transmissions, nous avons créé l'année dernière, suite à ce protocole d'accord, Camille le feu aux poudres, Camille tout le monde sur les routes, nous avons créé une association qui s'appelle Tujiunge, T-U-J-I-U-N-G-E, qui veut dire, ce mot-là veut dire « ensemble, unissons nos efforts ». Donc, elle est coprésidente à Goma, moi je suis coprésidente à Valence, le siège social est à Die. Et donc, cette association, nous avons loué un petit jardin maraîcher pour essayer que les enfants déplacés dans les camps déplacés puissent manger, puisque c'est un pays, c'est pas du tout le Sahel, hein. C'est un climat extraordinaire, il y a de l'eau partout et tout pousse, hein. Voilà, vous mangez des courgettes et des salades là où vous voulez. Donc, un petit terrain pour faire du maraîchage et un abri pour faire l'école. Nous avons embauché un maraîcher et un instituteur sur place qui essaye là, malgré tout ça, qui essaye de protéger ses 30 enfants dans cette école. Voilà, et ça se trouve sur Hello Asso, puisque j'ai fait un appel au crowdfunding.
Tout comme votre amie Justine, donc, combien de populations ont dû fuir ces combats, ces zones de tension, et d'aller se réfugier dans quelle contrée d'ailleurs, précisément ?
Alors en fait, quand nous avons créé l'association l'année dernière, il y avait déjà 400 000 réfugiés en banlieue de Goma. Là, il paraît qu'on est à 1,5 million. Donc 1,5 million. Alors déjà, Goma, ça doit être 1 million et quelques. 1 million de réfugiés, je ne sais pas si vous imaginez ces images de tentes blanches montées par le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc ces gens, le M23, il y a 48 heures, ce week-end, a demandé aux déplacés de rentrer chez eux. Donc, est-ce que la pression internationale a fonctionné ? Ils ont demandé de rentrer chez eux. Donc, il y en a qui rentrent au Kivu, dans leur village, là où ils habitent. Il y en a d'autres qui ont de la famille dans d'autres coins du Kivu, ou comme mon ami qui a de la famille au Burundi, par exemple, qui est le troisième pays côte à côte, là, autour des Grands Lacs. Il y en a qui vont en Ouganda. Mais quand on dit « se déplace », c'est dans le pays. Dans le pays ou dans la région. Parce que le pays est tellement grand que... Que le Kivu, cette région des mines, est déjà bien supérieure à la superficie française.
Pour ce qui est de ces préparatifs du 7 novembre, en amont, est-ce qu'ils sont organisés aussi des rendez-vous, des mises de contact pour pouvoir proposer aussi au-delà de ce qui se fera ? Est-ce qu'il y aura peut-être des dates en amont aussi pour accentuer ou informer les personnes qui s'intéresseraient à ce sujet ?
Alors écoutez, toujours est-il, on a fait une demande de subvention pour faire venir cette pièce de théâtre. Et cette demande de subvention a été faite à 4 associations. Donc CCFD Terre Solidaire, dont une Diwaze est salariée sur la Drôme, avec la TRAM, puisqu'il y a cette question des réfugiés qui viennent se réfugier du Congo, avec Tujiungé, donc l'association que nous avons montée avec mon ami. Et donc, nous travaillons en amont, sachant que le CCFD Terres Solidaires a fait son sujet d'année, l'extractivisme, a beaucoup de jeux et de matériel pédagogique pour les enfants, les collèges et les lycées. Donc la seule chose qui va être faite en amont, c'est de prendre contact avec le lycée ou avec des écoles pour savoir si CCFD Terres Solidaires pourrait intervenir. Après, moi, l'année dernière, je suis intervenue dans un lycée à Valence au mois de mai pendant une semaine sur l'utilisation du smartphone et la relation avec le pays de la RDC. Donc, peut-être qu'il y aura des contacts. En tout cas, il y a un site, là, Tujiungé est un site. Sinon, il y a le CCFD Terres Solidaires, c'est Julie Dierheimer, si quelqu'un la connaît, mais il y en a qui la connaissent, qui est salariée du CCFD Terres Solidaires pour la Drôme, qui travaille aussi sur ce sujet. Donc oui, nous allons faire appel à des bénévoles et à des gens pour travailler sur ce sujet.
Hélène Le Gardeur, merci beaucoup d'être venue nous parler donc de cette problématique sur ce territoire de Goma, dans la République démocratique du Congo. Et je vous souhaite une bonne soirée tout de même.
Voilà, bonsoir à vous. Merci de m'avoir invité, d'avoir permis de remettre un peu les pendules à l'heure et de ne pas croire que ce sont des guerres ethniques comme on aimerait le faire croire et ça nous arrangerait.
Au revoir.
Au revoir.